Radio de la Paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, les titres de ce qui fait aujourd'hui l'actualité. La feuille de route 2023 du gouvernement réalisée à plus de 69%. Le bilan des activités présentées hier au Conseil des ministres. Pour 2024, l'exécutif priorise entre autres d'accélérer la réforme de la CMU pour garantir aux populations l'effectivité des prestations de soins. La hausse du taux de pression fiscale de 0,5% affectera le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est ce qu'affirme l'économiste Germain Cramaux, que vous retrouverez en cours d'édition. Sur le continent, le Sénégal toujours plongé dans la crise après le Conseil des ministres hier mercredi. La revue des titres de la presse, ce sera avec Jean-Claude Comé. Et puis l'invité de la rédaction, professeur Prao Yao Séraphin, se prononcera sur le prix de la tonne du cacao qui connaît une hausse sur le marché mondial. Sur le sujet, l'économiste sera interrogé par Aoussi Potin. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara s'est tenu hier mercredi 14 février au palais de la présidence à Abidjan Plateau. De nombreux décrets et communications ont été adoptés au cours de cette rencontre. Le point de la feuille de route 2023 et les projets prioritaires de 2024 du gouvernement ont retenu l'attention de notre reporter Jean-Claude Mabéa. Il nous en parle.
Le bilan de la feuille de route du gouvernement pour l'année 2023 a été présenté par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
À fin 2023, 793 activités et 287 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle, conformément au chronogramme arrêté, soit un taux d'exécution physique global de 69,8%, dont 72,2% pour les projets et 62,7% pour les réformes.
Il a ensuite dévoilé les priorités du gouvernement pour 2024.
L'accent sera mis sur la finalisation des projets prioritaires et structurants, notamment le quatrième pont, la section 1, longue de 26 km de la voie de contournement de la Y4 d'Abidjan, ainsi que les autoroutes de sortie est et ouest d'Abidjan et les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et de Saint-Grobo. Le gouvernement prévoit également de poursuivre ses efforts de mobilisation de ressources intérieures avec le renforcement du recouvrement des recettes de services pour le financement des différents programmes. En outre, l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, la révision des mesures de lutte contre la traite des personnes et l'accélération de l'opérationnalisation de la réforme de la CMU seront également priorisées afin d'assurer l'effectivité des prestations des soins.
À noter que le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 28 février 2024.
Rendons-nous à présent à la double cérémonie de présentation de vœux, mais surtout des missions du Conseil supérieur de la magistrature. L'occasion a été saisie par le président de l'institution pour inviter les populations à œuvrer pour une justice impartiale en Côte d'Ivoire. Nous écoutons Mamadou Koné dans des propos recueillis par Mata Touré.
Si la justice marche mal, c'est le peuple du Côte d'Ivoire qui est en danger. Donc je lance cet appel à tout le peuple du Côte d'Ivoire d'aider la justice à ce qu'elle marche bien. Ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est d'accord avec le principe de l'indépendance de la justice, à condition que cette indépendance ne s'applique pas à lui. On veut que les juges soient indépendants, mais le jour où on est intéressé par un dossier en justice, ah, il faut qu'on vienne intervenir auprès du juge pour qu'on libère celui qui a tué, pour qu'on libère celui qui a détourné. Et quand on obtient, on est heureux. Mais tout ça, ce sont des atteintes à l'indépendance de la justice. Si ça continue comme ça, la justice ne sera jamais indépendante. Donc tout le monde doit se sentir concerné par l'indépendance de la justice. Les juges eux-mêmes, les magistrats, mais également le peuple de Côte d'Ivoire, qui doit comprendre que cette affaire d'indépendance, c'est l'affaire de tout le monde. Pour qu'on puisse espérer une justice indépendante, il faudrait qu'un jour un Ivoirien puisse dire « C'est mon fils, il a violé la loi, je laisse la justice sur son cours normal. » Si tout le monde se met d'accord sur ce minimum, sur ce programme minimum, je pense que la justice peut aller. Ce n'est pas l'affaire des seuls Ivoiriens, des seuls magistrats, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens.
Mamadou Koné, le président du Conseil supérieur de la magistrature. Parlons de tout autre chose avec quelques informations liées aux performances des éléphants, sacrés champions d'Afrique à l'issue de la CAN 2023 dimanche dernier. Après l'Égypte, la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant un record de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a remporté 3 fois le trophée, c'était en 1992, en 2015 et en 2023. Jean-Claude de Béa pour nous revient sur les différentes participations des pachydermes à cette compétition continentale de football.
Franck Kessié est le premier joueur ivoirien à marquer un but dans une finale de CAN. En effet, les 4 précédentes finales s'étaient soldées par un score de 0 but partout. C'est aussi la première fois que notre pays, la Côte d'Ivoire, encaisse un but en finale. Depuis l'instauration du repêchage adopté lors de l'édition 2019 en Égypte, la Côte d'Ivoire est la première équipe classée 3e lors des phases de groupe à remporter la CAN. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir remporté une CAN édition 1992 sans encaisser de but. La Côte d'Ivoire est le premier pays à remporter une CAN après avoir perdu 4-0 en match de poule. Après l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Soudan, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. La Côte d'Ivoire est le 9e pays à remporter le tournoi à domicile. En 34 éditions de la CAN, la coupe a été remportée 12 fois par le pays organisateur. Depuis le sacre du Nigeria en 1980, la Côte d'Ivoire est la première équipe de l'Afrique occidentale à remporter la CAN à domicile. Depuis son élargissement à 24 participants en 2019, la CAN a été remportée par des sélectionneurs nationaux. Djamel Belmadi avec l'Algérie en 2019, Aliou Cissé avec le Sénégal en 2021 et le dimanche dernier, Faye Emers avec la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire est la première équipe à changer d'entraîneur pendant une phase finale de CAN. Mieux, elle a remporté le tournoi malgré ce changement.
Le ministre de l'Économie et des Finances vient d'annoncer une hausse du taux de pression fiscale de 0,5%. En quelque sorte, cela doit permettre à tout le monde de payer l'impôt et cela à l'achat de certains produits à travers la TVA. C'est ce qu'explique ici Dr Germain Cramaux. Il est enseignant en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Lorsque nous prenons l'année fiscale pour l'année 2024, nous voyons que la pression fiscale de 0,5%, c'est au niveau de la TVA, donc c'est le pouvoir d'achat des ménages qui sera affecté. Par exemple, il y a des secteurs qui n'étaient pas taxés et qu'on va taxer, c'est ce qui va permettre d'avoir cette hausse de la pression fiscale. Donc ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le taux des anciens impôts, non, mais ce sont des secteurs, par exemple, certains aliments qui n'étaient pas taxés, tels que les fruits, la viande, les poissons, qui seront taxés. On va mettre la TVA sur le prix de ces fruits, de ces viandes, de ces poissons, ce qui va permettre de collecter un peu plus d'impôts et augmenter cette pression fiscale. Également pour les VTC, il est prévu un prélèvement de 4% sur le revenu des propriétaires des VTC. Vous voyez que si les VTC sont taxés, il va sans dire qu'ils vont répercuter ça sur les utilisateurs, ces VTC, les clients que nous sommes, ce qui va affecter le pouvoir d'achat.
De façon très simple, que signifie la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée?
La TVA, c'est comme vous le dites, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que les consommateurs payent lorsqu'ils font des achats. Donc le magasin va collecter cet impôt qui va reverser à l'État. Donc c'est un impôt que nous payons sur les biens de consommation que nous utilisons. Donc lorsqu'on partons au supermarché, que nous payons un bien, quand nous regardons sur nos factures, quelque part, il est mis TVA. Donc, nous payons l'impôt, l'entreprise collecte et l'entreprise va reverser à l'État. Donc, plus ou moins, nous payons tous l'impôt à partir du moment où nous faisons des achats dans les supermarchés et autres.
Germain Cramaux, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, joint par Francis Cassis. Décédé le lundi 12 février 2024, Monseigneur Siméon Awana, archevêque métropolitain de Boaké, aura marqué le processus de réconciliation Côte d'Ivoire, ayant été vice-président de la CONARIVE, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Il s'est démarqué par son langage franc et son empathie pour les victimes de conflits. Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du CNDH, Conseil national des droits humains, se souvient de l'homme avec qui elle a collaboré pendant 4 années.
Monseigneur Paul Siméon Awana était un homme épris de paix. Il était à Boaké quand la présidence a souhaité qu'il vienne travailler à la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. À cause de son statut Et c'est ainsi que nous avons eu l'honneur, nous autres, de le côtoyer d'abord à la CDVR. C'était une personne très douce, je dirais, très calme, toujours en train de parler de paix. Et il nous disait, le président nous a donné cette mission, il faut qu'on transforme l'essai. Et c'est dans cette vision-là que nous avons travaillé. En tant que représentant de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, par cette nomination, c'était comme s'il était un guide aussi au niveau de la CDVR et de la Conarive. Quand on faisait nos réunions, qu'il était là, il nous conseillait, il nous montrait comment parler avec les victimes sans les victimiser. Lui, sa touche particulière, c'était sa façon de parler. Il parlait assez cash, hein. Il disait les choses comme elles étaient et son credo, c'était la réconciliation. Et il nous disait, la réconciliation ne concerne pas seulement une ethnie, une religion, un homme politique ou un parti politique. Elle concerne tous les Ivoiriens sans aucune distinction. Et il nous disait, il faut avoir cette fibre en nous de vouloir réconcilier. Il ne cherchait pas à caresser par le sens du poil, il disait exactement ce qui était. Je vous assure qu'il a marqué de son empreinte la ville de Boaké.
Marie-Paul Kodjo, vice-présidente du CNDH. Hors de nos frontières, le Sénégal reste plongé dans la crise jeudi, au lendemain d'un conseil des ministres durant lequel le président Macky Sall n'a annoncé aucun geste d'apaisement. Et ce, malgré les appels pressants dans le pays comme à l'étranger, apprend l'AFP. Le dirigeant sénégalais fait face aux exhortations d'importants partenaires internationaux ainsi que de l'opposition et de la société civile a renoncé au report au 15 décembre de l'élection initialement prévue le 25 février 2024. Et tout de suite, nous passons bien sûr à l'invité de la rédaction qui est Prao Yao Séraphin qui se prononce sur le prix de la tente du cacao qui connaît une hausse sur le marché mondial. Il s'agit d'une première depuis 1977 et pour le professeur Yao Prao Séraphin, cette hausse du prix du cacao au plan mondial est liée entre autres à la baisse de l'offre de fèves de cacao au niveau des principaux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Sur le sujet, l'économiste et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké répond à Aoussi Potin.
Professeur Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, professeur Prao Yao Séraphin, le coût mondial du cacao est en hausse nette avec, on peut dire, un record hein, depuis 47 ans, 4 877 $ la tonne. Comment peut-on expliquer cette montée du cacao au plan mondial ?
Il faut savoir que le prix du cacao, comme n'importe quel prix des matières premières, respecte la loi de l'offre et de la demande. En fait, face à une demande léthargique, une demande qui ne baisse pas, si l'offre ou si les prévisions de l'offre sont inférieures aux prévisions de la demande, mécaniquement, les prix vont augmenter. En l'occurrence, ici, fondamentalement, la première cause est due à une baisse profonde de l'offre de cacao. Vous savez que les premiers producteurs en Afrique sont respectivement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec 40% de l'offre, suivi du Ghana, 20%, et du Nigeria. Et donc, à nous trois, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, nous avons 70% de l'offre mondiale. Or, vous savez bien qu'il y a eu ces temps-ci une pluviométrie qui a déréglé la production cacaoïère. À cela, il faut ajouter aussi le problème de la diversification des revenus des planteurs. Quand, sur plusieurs années, de façon tendancielle, les paysans voient leurs revenus baisser, qu'est-ce que les paysans font? De façon rationnelle, les paysans vont vers d'autres productions, d'autres spéculations. Les maraîchers, les bananes, ananas, etc., etc. Donc, du coup, de façon tendancielle, il y a une baisse, effectivement, de la production dans ces pays-là.
Au-delà des éléments que vous venez de citer, quels sont les autres éléments qui pourraient donc expliquer hein, cette hausse du prix dû, comme vous l'avez indiqué, donc à la baisse au niveau de la production quant aux principaux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana en particulier?
À cela, faut ajouter aussi le fameux El Niño. El Niño, vous savez que c'est un réchauffement, n'est-ce pas, des eaux du Pacifique Sud. Et donc ceux-là qui sont dans le Pacifique Sud, de l'autre côté, qui fournissent aussi le cacao, ont vu effectivement cette maladie jouer qualitativement et quantitativement sur la production. Donc du coup, l'offre a baissé et face à une demande très forte, il y a eu effectivement mécaniquement une hausse des prix. Le déficit se situe aujourd'hui à peu près, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du cacao, hein, à 116 000 tonnes. Hein. Et à cela encore, pour ajouter pour finir, la spéculation, par crainte effectivement de pouvoir fournir les feuilles de cacao aux majors.
Est-ce que l'on peut s'attendre aujourd'hui pour une fois à une hausse des prix aux producteurs?
Non, je ne pense pas. Parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, après la malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, expérience de la libéralisation de la filière café cacao en Côte d'Ivoire, nous sommes revenus dans un système mixte où il y a une part de flexibilité exigée par la libéralisation et une part de fixité que nous avons emprunté effectivement de la caisse de stabilisation de feu au fourvoyer. Donc ça a donné ce qu'on appelle le conseil café-cacao. Et dans le conseil café-cacao, qu'est-ce que nous faisons? Il y a ce qu'on appelle le prix de vente anticipé à la moyenne. On essaie de fixer un prix aujourd'hui et les livraisons vont se faire plus tard. C'est ce que nous appelons en économie un marché à terme. À la différence d'un marché au comptant, le marché à terme, c'est que vous jugez le prix d'une marchandise qu'on va vous livrer plus tard, mais le prix est jugé aujourd'hui. En l'occurrence, le prix a été fixé déjà. Hein, la campagne 2023-2024 a été fixée à 1100 le kilogramme. Et donc, du coup, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a deux périodes phares. En général, la période va de avril à septembre et d'octobre à mars. Le plus souvent, 80% de la production est vendue entre octobre et mars.
Mais est-ce qu'il est possible de réfléchir à notre mécanisme qui pourrait donc permettre d'éviter ces prix fixés à l'avance et puis après les coûts mondiaux augmentent et l'on ne peut plus rétro-pédaler pour revoir le prix à l'achat aux producteurs?
Il va falloir, à mon humble avis, que les experts du Conseil cacao fassent attention parce que ça fait très mal et cela décourage aussi les producteurs. Monsieur le journaliste dont vous parlez aujourd'hui, ils vont vous écouter à la radio. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que le prix a augmenté au niveau international et nous, notre prix reste aussi fixe? Donc, je pense qu'il va falloir avoir des prévisionnistes très outillés pour pouvoir un peu, à mon humble avis, faire des prévisions sur pas une période aussi courte comme nous le faisons actuellement, mais une période un peu longue quand même sur les 2 ans, le 1 an et demi à venir. Quel sera le coût tendanciel? Et en fonction de ça, on peut essayer de fixer quand même le prix et relever un peu. À mon humble avis, le gouvernement n'a pas fait un effort en fixant le prix 2023-2024 à 1000 francs, les experts du café cacao, les enseignants comme tous ceux qui travaillent autour effectivement de ce pool café cacao ont dit que le gouvernement pouvait proposer pour une fois un prix autour de 1300 francs CFA pour notre paysan. Il n'a pas fait. On n'a pas fait. Et bon, on a augmenté de 900 à 1000 francs le prix. C'est vrai qu'il y a une augmentation de 100 francs CFA. Mais quand nous voyons aujourd'hui le différentiel qui va rentrer dans la caisse café cacao, je pense que le président pourrait, à mon humble avis, même si ce n'est pas refixé le prix, mais pourrait par exemple faire un don aux organisations fêtières pour que ces dons-là puissent leur permettre de mieux faire la traçabilité de nos paysans et puis diminuer un peu le coût des intrants. C'est-à-dire qu'au total, nos grands paysans voient que sur le marché international, les prix ont augmenté, mais au niveau de leurs poches, les poches sont vides.
Pour ce Prao Yao Séraphin, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, le professeur Prao Yao Séraphin était avec Aussi Pota. Jean-Claude Comé nous a rejoint pour la revue des titres de la presse. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un peu en berne depuis près d'un mois à cause de la Coupe d'Afrique des Nations qu'abritait donc du 13 janvier au 11 février la Côte d'Ivoire. Les activités gouvernementales ont repris hier, mercredi, avec comme le qualifie le Patriote, le premier conseil des ministres post-Cannes, qui était l'occasion pour les membres du gouvernement de faire le bilan de cette messe du sport et de se projeter pour l'avenir. Il faut consolider les acquis de cette Cannes, souhaite le chef de l'État, qui rapporte le matin, a donné des instructions pour que les infrastructures soient préservées et servent à la jeunesse et au football. L'avenir retient qu'après le défi de la plus belle Cannes jamais organisé en Afrique, Alassane Ouattara donne des instructions pour la consolidation des acquis. Entretien des stades, gestion des cités Cannes et ce que le président de la République a confié à Mambé, indique le confrère Beugré Mambé, le premier ministre qui a été chaleureusement félicité hier, rapporte le mandat qui estime que la paire Ouattara-Mambé est un duo qui gagne. L'un des architectes de cette victoire des éléphants, la personne de son entraîneur, Emers Faye, elle a eu également de nouveaux réveils. Emers Faye qui annonce en une de ce confrère qui n'a pas démissionné. Information reprise par le Patriote et la Nouvelle Alliance à propos de cette CAN et de la mobilisation qu'il y a eu autour donc des éléphants parle de grandes leçons de patriotisme de l'opposition au régime. C'est pourquoi le temps fait remarquer qu'après la victoire des éléphants, la libération des prisonniers est attendue. Génération Nouvelle ne dit pas le contraire en signalant que le peuple attend la vraie décrispation. Le confrère annonce que le président Ouattara promet des mesures de réconciliation, ce qui fait écrit par l'expression que Ouattara promet d'importantes annonces d'ici fin février. Le nouveau réveil confirme l'information et notre voix estime que le président Ouattara prépare un coup. Outre ces sujets en lien avec la CAN et la réconciliation, Fatin Tematin nous apprend également que le président Ouattara a confié une nouvelle mission au Premier ministre Mambé, notamment les projets structurants achevés en 2024, les dossiers en rapport avec la CME et bien d'autres chantiers. Conseil des ministres, ponts, routes, barrages, hôpitaux, voici les projets prévus en 2024, indique aussi l'expression. Vie des partis politiques, pour terminer, le nouveau réveil annonce pour bientôt les premières nominations du président du PDC-RDA, Tidiane Thiam, quand l'Inter parle de grands changements annoncés au RHDP. Merci.
Merci à vous, Jean-Claude Comé. On vous retrouve dans l'édition de 8h. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. La feuille de route 2023 du gouvernement réalisée à plus de 69%. Le bilan des activités présentées hier au Conseil des ministres. Pour 2024, l'exécutif priorise entre autres d'accélérer la réforme de la CMU pour garantir aux populations l'effectivité des prestations de soins. Et puis sur le continent, le Sénégal toujours plongé dans la crise après le Conseil des ministres hier mercredi. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.